Marie-Webb, le précieux fléau. Livre 1, chapitre 5. La première gerbe tombe. Nous grimpâmes sur le vieux pommier, où nous avions notre place de prédilection entre les branches. Je regardais le visage de Gédéon parmi les feuilles brillantes, et je me disais qu'il était curieux de penser à tous ses péchés maintenant sur lui. Depuis que père avait été ce petit bébé, gazouillant et gesticulant dans son berceau de roseaux, en passant par le temps où il fut gamin, partant s'amuser au lieu d'aller à l'église, jusqu'à l'âge où il fit des combats de coq et où il allait courtiser, tout le mal qu'il avait pu faire, c'était à Gédéon maintenant de le porter. Toutes ses colères étaient devenues les colères de Gédéon. « Bon, voilà, pro, dit Gédéon. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Toi et moi, faut qu'on s'enrichisse. Et mère ? Mère aussi, bien sûr, mais elle est vieille. Et alors ? Elle voudra bien s'enrichir, elle aussi. Aucune importance. Si nous avons plus, elle aura plus. Toi et moi, faut qu'on travaille, pro. J'ai l'habitude du travail, dis-je. Eh bien, il y en aura beaucoup. Je veux faire de l'argent avec la ferme. Un paquet d'argent. Ensuite, quand ce sera le moment, nous la vendrons. Puis, nous irons acheter une maison à Lullingford. Tu auras tout ce qu'il y a de mieux et tu pourras garder la tête haute. Tu seras une dame riche. Je m'en fiche d'être riche et de garder la tête haute. Bon, réfléchisse un peu. Et je serai marguillier. Et je dirai au pasteur ce qu'il doit faire. Je dirai qui doit être mis au pilori. Et qui peut aller à l'hospice. Et je voterai pour les membres du conseil de fabrique. Et quand une fille aura un bébé, un enfant de l'amour, tira la sermonnée. J'aimerais mieux jouer avec le bébé. N'importe qui peut jouer avec un bébé. Mais sermonnée, personne ne peut le faire à part une grande dame. Et on achètera une belle maison. Je n'ai pas encore pu voir laquelle, mais on a le temps. Nous aurons un jardin avec un homme pour s'en occuper et des servantes. Dans la maison, on aura de beaux meubles remplis de vaisselle en argent et en porcelaine. Ah, oh, j'aime énormément la belle porcelaine, dis-je. Est-ce qu'on aura ces nouvelles tasses avec leurs soucoupes de Staffordshire, sur lesquelles sont peints des personnages? Tu pourras avoir tout ce que tu voudras, et un dé à coudre en or, et une armoire pleine de robes par-dessus le marché. Seulement, il faudra m'aider d'abord. Ça prendra des années et des années. Mais on pourrait pas rester à Sarnes et avoir juste quelques meubles neufs et un peu de porcelaine et se passer de servantes et de serviteurs? Non, il n'y a pas assez de monde à Sarnes, à part à la veillée. Et c'est qu'une fois l'an. Qu'est-ce qu'une fois l'an? Et à quoi sert d'être un chef s'il n'y a personne à commander? Chef de 10 000, c'est une phrase de la Bible qui sonne bien. J'aimerais être chef de 10 000. Je me demande si c'est pas la foudre en toi qui te fait ressentir les choses de cette façon-là, dis-je. Je pensais toujours qu'il avait en lui quand tout prenait un tour inhabituel. Ses yeux devenaient étincelants, mais glaciaux aussi. Et il vous donnait le sentiment de vouloir ce qu'il voulait, alors qu'en fait, vous ne le vouliez pas. Parfois, quand il décidait d'aller chercher des terriers de blaireaux dans les bois, il me faisait croire que cela me plaisait. Alors que pendant tout ce temps, je n'avais qu'une envie, faire des bouquets de pommes vertes. Bah, va me falloir beaucoup de foudre dans le sang pour faire tout ce que j'ai décidé, dit-il. La ferme n'a jamais fait que tout juste nous entretenir, d'après mère. Et père n'a rien laissé, à part de quoi payer le tisserand et le sacristain, de quoi acheter les bougies de cire et les gants et ce qui a servi à l'enterrement. On aura beau travailler, si nous n'avions que le nécessaire avant, avec père qui travaillait pour nous, on pourra jamais mettre de l'argent de côté. Je ferai ce qu'il faisait, et bien plus encore. Tu pourras jamais. Je peux faire tout ce que je décide de faire. J'ai une telle force en moi que seule la mort peut m'arrêter. Et avec toi pour m'aider. Il s'arrêta un moment, arracha une feuille, et la déchiqueta. Les choses étant ce qu'elles sont, tu te marieras jamais, prou. Mon cœur s'arrêta et devint triste. Cela semblait si terrible, ne jamais pouvoir se marier. Toutes les filles se marient, Jensis ne ferait, Tivy ne ferait. Même la polie du meunier, qui avait des rougeurs sur la peau, des infections et de la teigne, allait aussi se marier. Et quand les filles se mariaient, elles avaient une maison et parfois une lampe qu'elles allumaient quand le mari rentrait à la maison. Et si elles n'avaient que des chandelles, c'était égal parce qu'elles pouvaient les placer à la fenêtre et le mari pensait « Ma femme allume les chandelles pour moi en ce moment. » Et puis, arrivé le jour où Madame Béguédé faisait le berceau de Jean pour elle, et le jour grand et solennel où le bébé était couché dedans. Et puis c'était des lettres d'invitation, envoyées à tous pour le baptême. Et les voisins accourant vers la mère du bébé, comme des abeilles vers leur reine. Souvent, quand les choses n'allaient pas bien, je me disais, « T'en fais pas, Proussarne, un jour viendra où tu seras reine dans ta ruche, à toi. » Alors je répondis, « Pas mariée, Gédéon ? Oh mais, je me marierai pour sûr. » « J'ai peur que personne ne te demande en mariage, Prou. »« Personne. Et pourquoi donc ?»« Parce que... Oh, et puis tu le devineras bien assez tôt. »« Mais tu peux avoir tout aussi bien une maison et des meubles, si tu m'aides à les gagner. »« Mais pas un mari ? Ni un bébé dans un berceau de jonc ?»« Non. »« Et pourquoi ?» Vaut mieux le demander à mère. Elle pourra peut-être te dire pourquoi le lièvre a croisé son chemin. Mais ça me désole beaucoup pour toi, Prou. Et je m'emploie à faire de toi une dame riche. Et il se peut que si on a beaucoup d'or, on achètera un remède pour te guérir. Mais ça va coûter cher. Et tu dois travailler dur et faire tout ce que je te dirai. Tu es une assez belle et grande fille, Prou. S'il n'y avait pas cette chose, les gars tourneraient autour de toi comme ils tournent autour de Jensis. Je réfléchis à tout cela un moment pendant que l'eau clapotait sur les berges au pied du verger. Puis je répondis à Gédéon que je ferais tout ce qu'il voudrait. Tu dois le jurer, Prou. Un serment solennel sur la Bible. Si tu ne le fais pas, il se pourrait que tu fatigues et laisses tout tomber. Et moi aussi, je vais jurer de tenir mes promesses pour toi. Il alla à la maison chercher la Bible. Je restais assise sans bouger, en écoutant les corbeaux voler vers leur nid, derrière la maison, au-delà du jardin et de la cour. Ils revenaient de leur déjeuner du matin qu'ils avaient trouvé dans les champs, au loin, vers Plache. J'avais aussi envie de mon déjeuner, car quelque proche que puisse être celui qui vient de mourir, nous avons quand même faim, nous autres pauvres mortels. Et tout en écoutant le bruit monotone de leur croassement et le battement de leurs ailes, alors qu'il volait bas, je me disais que c'était un drôle de monde que celui-ci, où l'on pouvait avoir enterré son père la nuit et, dès les premières lueurs de l'aube, penser déjà à son petit déjeuner, à une maison, à la fortune. Un monde où l'on pouvait être maudit toute sa vie, juste parce qu'un pauvre lièvre stupide avait regardé votre mère alors qu'elle était enceinte de vous. Un monde où un fils chargeait sa pauvre âme des péchés de son père en mangeant le pain fait par sa mère et en buvant de sa boisson. Gédéon revint en courant avec le grand livre dans ses mains, très lourd, et portant un fermoir en argent. « Descends, Prou, et viens jurer, dit-il. Tiens, prends la Bible. » Je lui demandai s'il était sûr que mère nous permettrait de faire. « Nous permettre, c'est pas à elle de permettre ou non ? Elle peut rien interdire. La ferme est à moi. T'as pas entendu quand elle l'a dit au moment où je me suis chargée du péché ? Mais vas-tu laisser mère nier par ça ? Les gens mettent une rame en gage pour rien. Le goût du péché d'un autre est-il si agréable qu'on le mange gratuitement ? La ferme est à moi, pour toujours, jusqu'à ce que je décide de la vendre. Maintenant, jure, dis, je promets et jure d'obéir à mon frère Gédéon Sarne et de me louer à lui comme servante pour rien, jusqu'à ce que tous ses désirs soient réalisés. Et je serai aussi docile qu'un apprenti, une femme ou un chien. Je le jure sur le Saint-Livre. Amen. » Je répétais ces paroles, et Gédéon dit alors. Je jure de tenir ma promesse envers ma sœur, Proussarne, et de tout partager avec elle quand on se sera enrichi, et de lui donner jusqu'à 50 livres pour la soigner quand nous aurons vendu Sarne. Amen. Après cela, je me sentis comme si nous étions submergés par l'étang de Sarne, et je frissonnais comme si j'avais la fièvre. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » me dit Gédéon. « Vaut mieux aller allumer le feu si tu as froid, et allons déjeuner. On pourra parler en mangeant. Mère d'or, il y a encore beaucoup à dire. » Alors je rentrai, allumai le feu, et mis la table aussi joliment que possible, pour un peu de réconfort dans cet endroit sombre. Je me demandais si ce serait inconvenant de cueillir quelques boutons de rose pour les mettre là, au milieu. Et considérant qu'il n'était pas inconvenant de manger et de boire, je me suis dit que cela ne gênerait point de cueillir une rose ou deux. Quand Gédéon rentra de la traite, nous nous mîmes à table, et il me fit part de toutes ses idées. D'abord, je devais apprendre à faire les fromages et le beurre. Lui, il allait fabriquer des paniers à placer sur Bendigo, et tous les jours de marché, il irait à Lullingford, vendre du beurre, des œufs, des fromages, du miel, des fruits, des légumes et même des fleurs. « Ces roses, dit-il, tu pourrais les arranger en bouquet et ça nous rapporterait. De temps en temps, on préparerait de la volaille, des canards, des lapins, du poisson et des champignons. Tu verras, Prou, on fera de l'argent. » « Oui, mais quel trajet ? 50 kilomètres dans la journée ? Je labourerai un bout de terre pour mettre des céréales pour Bendigo. Quant à moi, je suis jamais fatigué. » L'un de ses projets était d'acheter une nouvelle vache quand nous aurions quelques économies. Elle mettrait bas au printemps et il y aurait 2 vaches qui donneraient du lait pendant que l'autre serait sèche, ce qui voulait dire plus de beurre à vendre au marché. Ensuite, il nous faudrait acheter 2 bœufs pour labourer, tourner le fléau ou porter le fumier, ce qui nous éviterait de louer les bêtes de Béguindi. Quand notre truie mettrait bas, il faudrait garder les porcelets et les laisser courir dans la chenaie, et mère n'aurait qu'à prendre son tricot et les surveiller. Alors il y aurait beaucoup de lard pour le marché, en plus de ce que nous mangerions. Nous n'avions que 5 moutons, mais Gédéon disait qu'il allait remédier à cela en gardant tous les agneaux pour avoir assez de la laine à vendre et un grand troupeau l'année suivante. Mère et moi aurions de la laine affinée pour tout l'hiver, et Gédéon vendrait notre travail au drapier ou l'échangerait contre ce qu'il nous fallait chez l'épicier, comme le sel pour les salaisons, le levain ou le sucre. Le savon, nous le faisions nous-mêmes, à partir du trempage de la cendre dans l'eau. Les chandelles, nous les fabriquions aussi, avec de la graisse et des roseaux séchés. Du seigle, nous en avions, ainsi qu'un petit champ de blé. Père avait l'habitude d'emporter plusieurs sacs à la fois au moulin où habitait l'oncle de Tivy. « Je ferai pousser plus de blé, des acres de blé, » dit Gédéon, « et les porterai au moulin dans le char à bœufs. Quoi que fassent les Français, on aura toujours besoin de blé. Et même si c'est bon marché en ce moment, ça ne sera plus quand il va être taxé, comme il le sera probablement d'après ce que j'ai entendu dire. Il vaudra mieux alors avoir 1 acre de blé que de se bercer d'illusions avec 20 acres de n'importe quoi d'autre. Nous ferons pousser du houblon aussi, et manqueront jamais d'une goutte de bonne bière, parce que même si j'ai bien l'intention de t'employer, Prou, je ne t'affamerai pas. De la bonne nourriture simple, autant que tu pourras manger, mais pas de chichi. Le reste de miel, après que nous aurons porté le meilleur au marché, les fruits, quand ils se vendront pas cher, du lard, des pommes de terre, du pain et aussi des œufs et du beurre quand les routes seront trop mauvaises pour aller au marché. « Je prierai pour de mauvaises routes, alors, » dis-je. Gédéon me regarda sévèrement, mais voyant que je plaisantais, il se mit à rire. Oui, mais il faudra un sacré temps de chien pour m'arrêter. Il avait prévu que j'apprendrais à calculer, à tenir des comptes et à écrire. J'étais ravie, parce que l'idée même de pouvoir lire les livres, et spécialement la Bible, me plaisait beaucoup. Cela m'ennuyait toujours à l'église quand le sacristain lisait la Bible, parce que, quel que fût le sujet, il prenait toujours le même ton. On aurait dit une abeille dans une bouteille. Cela importait peu quand il disait « Il prit une femme et engendra Aminadab », puisque le sujet m'était indifférent. mais quand il disait des choses qui avaient une résonance en elle comme le vent dans les peupliers. Je trouvais pitoyable de l'entendre annonner de cette façon, tout en se rengorgeant, parce que lui savait lire. J'avais envie de pouvoir déchiffrer pour moi toute seule, avant que le cordon d'argent se détache, et de le savourer. Ce serait formidable aussi de pouvoir écrire et de coucher sur le papier tout ce que je voulais garder en mémoire. Aussi, quand Gédéon me dit qu'il me faudrait apprendre toutes ces choses, j'étais joyeusement consentante. Mais si Maître Béguidi m'enseigne, comment je paierai ? Dis-je. Tu peux tirer ses pommes de terre, lui donner un coup de main pour les foins et de temps en temps labourer pour lui. Béguidi est si feignant et tellement imbu de sa sagesse qu'il ne sait pas travailler de ses mains. Il rêvasse, il rêvasse. Il a un médicament pour chaque maladie, sauf pour la paresse. Toi, t'es forte. Tu peux presque rivaliser avec moi, bêche contre bêche. Fais donc de cette façon. Et si ça te dit, mets ton manteau de deuil et va lui demander ce soir. Il partit pour l'herbage avec sa faux, et moi, je me lançai dans mon travail avec bonne volonté. J'aurais même chanté un peu si le souvenir de pauvre père ne m'était venu. J'étais tellement contente de penser que j'aurais un peu d'éducation. C'était comme une grande fenêtre qui s'ouvrait. Et par cette fenêtre, qui peut savoir ce qu'on peut découvrir? Puis je partais apporter le souper à Gédéon. Et il me vint à l'esprit, en traversant le bois des corbeaux, que nous ne les avions pas prévenus de la mort qui était survenue en ce lieu. C'est une coutume ancienne qui impose de leur en parler. Les gens prétendent que, si on ne le fait pas, le mécontentement les prend et ils tombent dans une sorte de mélancolie et oublient de revenir. Alors, en peu de temps, vous vous retrouvez avec vos ormes toujours pleins de nids comme des fruits noirs, mais silencieuses et désertées. Et bien que les corbeaux causent pas mal de dégâts, il est malchanceux de les perdre, parce que la maison qu'ils quittent ne peut plus ensuite être prospère. Aussi, je leur appelai à Gédéon. Et nous allâmes dans leur bois. On y trouvait les plus grands ormes que j'ai jamais vus, que ce soit l'espèce commune ou l'espèce d'Écosse. Sous leur ombrage d'été, tout était sombre. Le sol était vert de chélidoine, dont la floraison venait de finir, tandis que celle des belles de nuit allait arriver. Les feuilles étaient blanches de déjection. C'était une chaude journée très calme avec à peine une légère brise à l'extrême cime des arbres, et des croassements de temps à autre. J'aimais assez venir dans le bois aux corbeaux, par des jours comme celui-ci, après le thé quand je m'étais lavée. Et le jeudi d'Ascension surtout, j'aimais venir vérifier s'il travaillait, parce qu'on disait que ce jour-là, aucun corbeau ne travaillait. Et il est certain que ce jour-là, je ne les ai jamais vus porter ne serait-ce qu'une brindille. Mais ils prenaient un air pensif et sain, se tenant chacun sur son arbre comme un pasteur à son pupitre. « Ohé, les corbeaux !» s'écria Gédéon. « Le père est mort, et c'est moi le maître. Je viens vous dire que vous pouvez rester en paix dans vos nids. Je vous protégerai de tout, sauf de ma carabine. En attendant, vous êtes les bienvenus. » Les corbeaux lui lancèrent un regard perçant depuis leur nid, et quand il eut fini, il y eut un soudain bruissement d'ailes, et ils s'envolèrent dans le ciel bleu, avec une grande clameur comme s'ils se concertaient sur ce qui venait d'être dit. Un moment après, ils revinrent et s'installèrent dans leur nid gravement et calmement. Nous sûmes alors qu'ils avaient l'intention de rester. Quand nous revînmes au pré, Gédéon se prit à rire pendant qu'il aiguisait sa faux sur la pierre et il dit « Je suis content qu'il reste !» J'aime énormément le pâté de corbeau. » Puis il lança la faux dans l'herbe fine, remplie de marguerites, d'où s'échappaient des soupirs brefs. Elle était si fine qu'on pouvait voir la faux comme un éclair d'acier à travers l'herbe haute, avant qu'elle ne soit fauchée et que la gerbe ne tombe. Il me semble maintenant qu'ainsi est la volonté de Dieu, attendant derrière nous jusqu'à l'heure de nous faucher. Cependant, ce n'est pas par méchanceté, mais parce qu'il est mieux pour nous de cesser de grandir dans la prairie et de nous mettre à l'abri dans sa meule pour être ensuite étendus au-dessus de la chaude bonté de son amour éternel.